On a un élève qui est un élève tout à fait ordinaire.
Je l'ai vécu comme une belle expérience et une expérience positive pour la classe.
Le bégaiement et le bredouillement. Une émission Réseau Canopée présentée par Laetitia Pourrel.
L'image que véhiculent les représentations collectives à propos du bégaiement ou du bredouillement est souvent celle d'une personne cherchant ou butant sur ses mots, timide, solitaire et manquant de confiance en elle. S'il semble à tout un chacun simple d'identifier une personne qui bégaie, ce trouble est souvent mal connu, mal compris et sa réalité plus complexe. Joseph Sheehan, en 1970, faisait une analogie entre la connaissance de ce trouble et un iceberg en parlant de l'iceberg du bégaiement. C'est peut-être pour cela qu'il est rarement évoqué dans l'espace scolaire. Pourtant, ce trouble de la parole, qui apparaît entre 2 et 7 ans dans 75% des cas, touche près de 1% de la population et on constate qu'environ 8% des enfants connaissent des troubles de l'affluence. Comment mieux comprendre ce trouble et quels moyens les enseignants peuvent-ils mettre en œuvre pour aider les élèves qui en sont atteints? Pour échanger autour du bégaiement, nous recevons aujourd'hui Nicolas Armand-Fouché, professeur co-délégué en Indre-et-Loire de l'association Parole Bégaiement. Nous recevons également Corinne Neuhardt, professeure de lettres, formatrice académique sur le sujet des TSLA. Et Nadia Brejon-Lamartinière, docteur en linguistique, orthophoniste et enseignante à l'école d'orthophonie de Tours. Et vous êtes également déléguée de l'association Parole Bégaiement. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
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 Alors, les échanges que nous avons eus pour préparer cette émission m'ont amené à questionner des enseignants sur leur expérience face au bégaiement. Certains se sont rendus compte qu'après 15 ans de classe, ils avaient l'impression de ne pas avoir rencontré d'élèves qui bégayaient. Pourtant, on sait que 8% des enfants connaissent des troubles de l'affluence. Nicolas Armand-Fouché, vous qui êtes enseignant dans le premier degré, comment expliquez-vous en quelques mots ce décalage ?
Alors, je pense que la raison en est qu'il n'y a aucune formation, il n'y a jamais eu aucune formation pour les professeurs sur cette question-là. La première chose, c'est qu'en fait, un enseignant, la plupart du temps, ne voit pas que son élève bégaye, parce que dans beaucoup de cas, les élèves le cachent très bien. Voilà, donc on n'a pas les outils pour déceler ce genre de choses.
D'accord. Et vous, Corinne Neuhardt, voyez-vous les mêmes décalages de perception au second degré ?
Je confirme, effectivement, on a ce décalage. Je l'ai vécu, si vous voulez, pour moi-même. Deux élèves, a priori, en 33 ans d'enseignement, ce qui est impensable. Mais dans le second degré, je dirais que c'est accru. Parce que il y a non pas un enseignant qui voit les enfants toute la journée qui les suit, mais une dizaine. Et dans les faits, certains enfants peuvent passer complètement inaperçus un sacré moment avant qu'un enseignant puisse avoir, entre guillemets, la puce à l'oreille.
Alors, on a parfois une représentation un peu stéréotypée des jeunes atteints de bégaiement. Nadia Brejon-Lamartinière, pouvez-vous nous expliquer le regard qui peut être porté sur eux ?
Alors, le regard, en effet, malheureusement, il n'est pas tout à fait, je dirais, fiable qu'on a. On a souvent cette attitude, un peu cette idée stéréotypie de quelqu'un qui va répéter les mots. C'est ce qu'on entend à la télé, dans les médias, c'est quelqu'un qui répète. Et ça, parfois, même à un côté, c'est traité de façon humoristique aussi. Les gens se permettent d'en rire, ça paraît comme quelque chose de vraiment pas grave, parfois rigolo. Or, c'est un trouble qui est beaucoup plus embêtant que ça. Alors déjà, on entend des choses, en effet. La personne a un trouble moteur de la communication, donc il va répéter. Il va aussi faire des blocages ou des prolongations de sons. Mais il y a tout ce qui vit à l'intérieur, tous les comportements secondaires par rapport à ce trouble qui sont beaucoup plus gênants et qui peuvent être handicapants, comme le repli sur soi, la peur de prendre la parole en public, préférer se taire. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure des enfants qui n'étaient pas bien décelés, notamment dans le secondaire. C'est parce que souvent, ils se taisent et préfèrent dire qu'ils ne connaissent pas la réponse et du coup, l'enseignant n'entend pas le bégaiement de l'enfant.
Nicolas Armand-Fouché, vous vouliez réagir également ?
Oui, c'est ça. Je crois que pour déceler qu'un enfant est bègue, il faut avoir des antennes. Si on n'a pas eu un minimum de formation pour ça, c'est très dur.
Oui. Si on veut aller plus loin et aider nos auditeurs à comprendre ce que sont les élèves atteints de bégaiement, que doivent-ils savoir et à quoi doivent-ils être attentifs ?
Alors, chez les tout-petits, déjà, ils doivent être attentifs à l'effort de parole. Quand un enfant fait visiblement des efforts pour sortir les mots, on voit des contractions musculaires au niveau du visage ou des tensions, des clignements des yeux. Là, il faut se poser des questions. Donc ça, c'est peut-être le premier signe chez les enfants tout-petits, c'est cette sensation que l'enfant est obligé de faire des efforts. Ensuite, plus âgé, ça va être plutôt les évitements aussi. Et quand l'enfant lui pose des questions, il ne répond pas. S'il a des performances très bonnes à l'écrit, mais qu'à l'oral, il ne connaît jamais la réponse, ou qu'il a oublié son cahier, par exemple, ou qu'il a oublié d'apprendre sa récitation, on peut se poser des questions à ce moment-là.
Alors, j'imagine que les manifestations de ces troubles ont des incidences sur les apprentissages. Vous l'avez déjà souligné. Corinne Neuhardt, en quelques mots, pouvez-vous revenir sur ces difficultés ?
Alors, les difficultés sont de plusieurs types. On va avoir très souvent des enfants qui sont plus silencieux que la moyenne, qui vont faire des réponses monosyllabiques, alors même que dès le cycle 3 et plus encore dans le cycle 4 et dans la poursuite des études, il est important d'avoir une pensée qui s'inscrit dans un oral continué, où l'on développe effectivement ses propos, où l'on donne des explications. Et du coup, l'intervention, en fait, en apparence minimaliste, sera pénalisante, en fait, pour ces élèves-là. De la même manière, lorsqu'un enfant va hésiter, parce que dans les faits, il est en train de chercher à prononcer un mot et parfois amené à changer de terme afin justement de ne pas bégayer, de ne pas buter sur le mot. Cette hésitation peut être là aussi mésinterprétée et les collègues peuvent avoir le sentiment que l'enfant n'a pas appris sa leçon correctement ou qu'il n'est pas suffisamment attentif au temps de cours, ou tout simplement que sa compétence orale est de qualité médiocre.
Alors justement, pour prolonger cette précision, y a-t-il une distinction entre le premier et le second degré, Nicolas Armand-Fouché ?
Ça m'est difficile à dire, moi, en tant qu'enseignant, parce que il me semble avoir décelé plus facilement que certains de mes collègues quand j'avais des élèves bègues dans ma classe, même si je pense qu'il y a encore peut-être certaines choses qui m'ont échappé. Je pense qu'effectivement, oui, ça doit être quelque chose de très courant qu'on se trompe sur les raisons d'une absence de parole ou d'une parole très courte. Je ne suis pas sûr de l'avoir rencontré moi dans ma classe, mais je pense qu'effectivement, quand je fais le compte autour de moi des professeurs qui me disent avoir rencontré des enfants bègues dans leur classe, ce qui est très peu, je pense que beaucoup se sont sûrement trompés sur les raisons pour lesquelles la communication n'était pas bonne, quoi.
Alors, peut-être avant d'aborder la question de l'approche pédagogique, je vais revenir sur la différence entre bégaiement et bredouillement. Je pense que c'est une précision importante à apporter au cours de cet entretien. Nadia Brejean, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur ces deux points pour que les enseignants sachent à quoi correspondent ces deux troubles ?
Alors, dans le bégaiement, on a davantage de blocage. Et dans le bredouillement, de blocage et de répétition, on a une accélération. Il y a toujours une accélération du débit et la parole est moins intelligible. Et un enfant qui bredouille, souvent, ose prendre la parole. Ils n'ont pas cette appréhension. Donc, il va s'exprimer davantage. C'est très rare que des enfants ou même des adolescents soient réellement conscients de leurs troubles du bredouillement. Donc, ce sont des élèves qui vont prendre la parole, qui vont lever la main, mais ils ne sont pas intelligibles. Donc là, on va leur dire « mais j'ai rien compris, parle-moi vite » ou ils peuvent être pénalisés parce qu'ils sont allés trop vite ou ils n'ont pas été clairs. Alors que dans le bégaiement, ça va être beaucoup plus présent dans leur esprit et ces élèves-là vont se retenir de parler. Voilà, c'est un petit peu la différence qu'on pourrait faire. Et il y a sans doute moins de problèmes d'intelligibilité avec le bégaiement.
D'accord. Et je me tourne vers vous, Madame Neuhardt. Souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la distinction entre ces deux troubles ?
Alors, ajouter peut-être non, mais confirmer tout à fait les propos de Madame. Le bredouillement est finalement quelque chose qui est relativement fréquent dans le secondaire. Les adolescents ont un rapport très particulier à leur corps, au changement, et on constate que de nombreux élèves. Alors, est-ce qu'il s'agit ici du vrai bredouillement ou simplement d'une manifestation transitoire d'angoisse ? Beaucoup d'élèves bredouillent. Et ils bredouilleront moins en sixième. On aura beaucoup plus d'élèves, en fait, qui vont nous alerter par leur débit extrêmement rapide à partir de la quatrième et de la troisième. Donc, quand on est vraiment sur ce début d'adolescence. Et du coup, là aussi, les enseignants peuvent confondre effectivement une difficulté durable, peut-être systématique, avec des difficultés transitoires liées au stress de la prise de parole à l'oral dans une situation publique alors qu'on est adolescent.
Alors, vous parliez de stress, justement. Je pense aussi à l'anxiété scolaire. Je vous vois sourire, Madame Brejon. Est-ce que vous pouvez nous peut-être en parler rapidement ? Et puis, je me tournerai ensuite vers Nicolas Armand-Fouché également pour compléter.
Voilà, c'était un sourire d'approbation. Évidemment, vous parlez d'anxiété scolaire, alors qui est extrêmement présente chez ces enfants. Et là, c'est le rôle des parents, des orthophonistes, mais aussi, je crois, des enseignants, d'essayer de les rassurer par rapport à cette anxiété qui ne sera même pas existante à l'école maternelle, on va dire, par rapport au bégaiement, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment, et qui va pouvoir s'installer au fur et à mesure s'ils ne sont pas bien accompagnés. Donc ça, c'est l'anxiété scolaire pour prendre la parole devant la classe. Il y a l'anxiété sociale aussi, mais peut-être que nous en reparlerons, qui est très importante, qui se développe aussi pendant l'âge scolaire.
Oui, moi je vais aller dans le même sens que Madame Brejon, c'est-à-dire que l'urgence, dès qu'on voit le moindre signe, c'est de pouvoir en parler, le poser avec la famille, avec l'enfant, parce que c'est le point de démarrage de tout. Voilà, donc il faut qu'on en parle très vite.
Très bien, alors pour continuer sur cette communication, Madame Neuhardt, je vous vois réagir, je vous en prie.
Oui, alors en fait, en matière de signes, je dirais que dans le secondaire, ce qui devrait plutôt alerter les enseignants, c'est quelque part l'absence de signes. Je m'explique. En ces temps de rentrée, en principe, on apprend à connaître nos élèves en l'espace de 15 jours à 3 semaines. Un élève qui est transparent, dont on ne connaît pas le prénom encore après 3 semaines, est un élève qui, a priori, fait en sorte de ne pas être visible. De la même manière, un enfant qui ne s'exprime pas doit nous alerter. Et c'est là qu'il est important, effectivement, de se tourner aussi vers ses collègues pour voir si c'est quelque chose d'anecdotique, si c'est quelque chose de récidivant. Ce qui m'a frappée les rares fois où j'ai été confrontée, c'est qu'en fait, le premier signal d'alarme, ça a été le corps. Le corps qui produisait des gestes, entre guillemets, parasites, des signes en fait, d'anxiété, des doigts qui se touchaient, des efforts particulier, je dirais, la limite théâtraux dans l'expressivité du visage, l'évitement du regard. Alors, bien évidemment, chacun de ces signes pris individuellement n'est pas signifiant. à mon sens. Je suppose que c'est davantage l'accumulation de ces signes qui est intéressante. Et pour finir, quand après un mois, on lit des écrits d'élèves et qu'on constate qu'il y a un fort décalage entre la qualité du vocabulaire, la qualité de l'expression à l'écrit et les manifestations en fait orales, là, effectivement, en général, l'enseignant prend la mesure d'une difficulté effective.
Alors, vous avez parlé justement des incidences sur les apprentissages. Concrètement, quels conseils pourrait-on donner à la rentrée à un enseignant qui s'interroge sur un enfant ou un jeune qui semble souffrir de ce trouble? Je me tourne vers vous, Nadia Brejon-Lamartinière.
Alors, les conseils sont différents, évidemment, selon l'âge. Alors, à la maternelle, ça va être essayer d'accompagner les petits-enfants et surtout de les aider quand ils sont en difficulté et de parler du trouble, de les rassurer et d'en parler avec les parents aussi. Parce que parfois, les parents ne prennent pas l'initiative eux-mêmes de consulter. Or, il faut absolument consulter dès le plus jeune âge parce qu'on sait que jusqu'à 6 ans, on a de fortes chances pour que ce bégaiement disparaisse. Paraissent totalement et définitivement. Si on attend, il risque de s'installer. Donc, on prend le risque, en tout cas, qu'il s'installe. Donc, un des conseils, ou ça fait partie des conseils d'orienter les parents aussi pour qu'ils fassent la démarche d'aider leur enfant, si ce n'est pas le cas. Et aussi, à l'inverse, si les parents parlent de bégaiement à la maison, parfois, les enseignants ne l'ont pas observé. Parce que l'enfant, à l'école, il fait des phrases plus courtes, il dit oui, grand, triangle, bleu, vert, etc. Donc, ils n'ont pas décelé ce bégaiement qui se manifeste davantage quand il y a une plus grande complexité du langage et quand il y a davantage d'émotions. Donc, si les parents en parlent, évidemment, prendre en compte leur témoignage et surveiller comment ça se passe à l'école. Parce qu'on a tendance à dire rapidement « Non, il ne bégaye pas, ça va passer, vous inquiétez pas, il doit être un petit peu anxieux. » Mais si les parents parlent, c'est sans doute qu'il y a quelque chose qu'il faut surveiller.
Nicolas Armand-Fouché, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques précisions aussi
sur ce qu'il faut mettre en place à l'école primaire?
Sur le conseil que vous pourriez donner à un enseignant qui s'interroge sur les troubles éventuels d'un enfant?
Voilà, donc je pense que Madame Brejon-Lamartinière a dit le plus important, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut très vite en parler avec les parents et consulter le plus vite possible. Parce qu'effectivement, là, il y a une histoire d'installation du bégaiement dans le temps ou pas. Après, dans la classe, il y a pas mal de choses à mettre en place parce qu'effectivement, rassurer, et il y a plein de manières de rassurer. Je pense que déjà, parler de cette difficulté de parole avec l'enfant est déjà quelque chose qui peut poser les choses et mettre des mots sur quelque chose qui angoisse. Après, il y a plusieurs petites choses, moyens de communication qui peuvent permettre d'alléger cette communication. Parler soi-même plus lentement, sans forcément demander à l'enfant, lui, de parler moins vite. Voilà, donc en fait, c'est l'enseignant, c'est l'adulte qui est là, qui doit vraiment parler plus lentement, regarder l'enfant droit dans les yeux, enfin, le regarder bien, s'intéresser à ce qu'il veut dire et non pas la façon dont il va le dire. Prendre le temps, ne pas demander à l'enfant de parler en le pressant de manière temporelle. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très subtil, c'est-à-dire que la mise en place d'un contrat de communication avec l'enfant va être totalement propre à chaque enfant qui bégaye. Il va falloir mettre en place avec lui, comment veux-tu, qu'est-ce que tu veux qu'on mette en place pour que tu sois plus à l'aise? Est-ce que tu veux parler devant tes camarades? Est-ce que tu veux parler dans telle ou telle situation? Est-ce que... Voilà, donc ça c'est des choses qu'il va falloir discuter tranquillement avec l'enfant qui bégaye.
Alors, je vous entends parler d'échanges, d'écoute. On voit que le langage, l'échange est vraiment important, fondamental. Comment le faire comprendre aux enfants? En vous écoutant, est-ce qu'on peut parler peut-être d'une forme de modélisation bienveillante de l'enseignant?
Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel, oui.
Nadia Brajan.
Alors, je voulais rajouter sur ce contrat avec, entre l'enseignant et l'élève, c'est très important. Il faut que l'enfant sache qu'il va aller à l'école sans qu'il ne se passe quelque chose de dramatique pour lui. Et ce qui est dramatique, c'est de bégayer devant la classe, souvent. Donc, parfois, il s'agit de faire des petits contrats, par exemple, de demander à l'enseignant de ne pas l'interroger, à moins qu'il ne lève la main au début. Parce qu'il peut aller à l'école tous les jours avec des maux de ventre épouvantables parce qu'il risque d'être interrogé par surprise. Donc ça, juste dire, ne t'inquiète pas, je ne t'interrogerai plus si tu ne lèves pas la main jusqu'à nouvel ordre, on en reparlera. Rien que ça, ça peut enlever, retirer ces maux de ventre ou ces maux de tête qu'on voit nous, chez ces enfants. Et ensuite, petit à petit, quand il aura appris des stratégies pour mieux gérer sa parole, peut-être qu'il pourra être interrogé avec quelqu'un d'autre ou quand il ne lève pas la main, mais uniquement dans une matière. Et petit à petit, on va élargir toutes les possibilités. Mais il faut le faire avec lui, pour pas qu'il se... parce qu'il a, il peut avoir des tensions vraiment douloureuses.
Alors, je me tourne vers vous, Madame Neuhardt. Je sens que vous avez envie de réagir.
Oui, dans le secondaire, si vous voulez, moquerie et risque de harcèlement sont des dérives inscrites, malheureusement. Et je dirais que dans le secondaire, dans la mesure où nous sommes en général une équipe plurielle, je crois que les enseignants... privilégie habituellement des situations qui vont bénéficier à l'ensemble des élèves, mais qui vont être particulièrement facilitantes pour les enfants bègues. On va éviter toute situation, entre guillemets, duel, qui pourrait être stigmatisante en classe. Je vous donne un exemple. Le stress à l'oral, dans la mesure où c'est une compétence à acquérir en collège et en lycée, mais c'est un vécu qui est partagé par de nombreux élèves. Un enseignant de lettres est amené à demander à ses élèves très souvent de participer à des échanges, de participer à des débats, de prendre la parole. Ce sont ces occasions-là qui vont permettre en fait de proposer, en fait, de faire le pas de côté pour toute la classe et de leur demander ce qui a été difficile dans ces moments-là. Ce qui fait que la difficulté qui est effectivement spécifique à l'enfant bègue va être quand même en partie partagée par les autres. Et les réponses qu'un enseignant peut apporter, par exemple l'enseignant de lettres, on va retrouver des techniques théâtrales qui vont être utiles à tous les élèves et dont l'enfant bègue va vraiment pouvoir effectivement s'en emparer. Regarder au loin quand il a un peu trop peur d'affronter le regard. Travailler des techniques respiratoires afin justement de ralentir le rythme, de décrisper le corps et peut-être effectivement tout ce qui a trait à la prise de parole. Le geste pour appuyer la parole, c'est à la fois... clarifier le message pour l'auditeur et très souvent pour le locuteur une façon d'oublier une partie de son angoisse grâce effectivement au geste. Alors ça c'est un élément mais dans des situations si vous voulez scolaires au collège il y a d'autres façons d'emmener l'enfant bègue dans un groupe de manière à ce qu'il ose prendre la parole facilement. Les techniciens parleront de principe de voix dans la voix, c'est tout simplement le fait en fait de s'exprimer à plusieurs, chanter à plusieurs en musique, prononcer les mots nouveaux à plusieurs. Par exemple, tous ces éléments qui font qu'on peut être au départ dans une situation d'étayage et puis un désétayage progressif. Au début, c'est une rangée qu'il fera, puis quatre élèves, et puis deux. Et puis arrivera le jour où l'enfant va s'exprimer tout seul parce qu'il aura acquis la confiance grâce au travail avec ses pairs. Alors, ce sont des exemples parmi d'autres.
Alors justement, en vous écoutant, on voit que beaucoup de techniques sont possibles pour essayer de surmonter ces difficultés. Pourtant, on est tenté de penser que l'écrit peut être aussi une solution pour débloquer des situations. Nadia Vrejean, j'imagine que vous voulez également réagir à ces propositions.
Alors l'écrit, c'est très intéressant parce qu'il ne va pas y avoir de difficultés, évidemment, chez ces élèves qui bégayent à l'écrit. Alors, je ne sais pas si ça va débloquer la situation, parce que je pense que pour améliorer cette expression orale, il vaut mieux faire de l'oral et utiliser petit à petit des choses de plus en plus difficiles. Comme vous disiez tout à l'heure, commencer par des choses très simples et puis avec des techniques. On a des techniques très spécifiques qu'on utilise en rééducation qui vont permettre à l'élève de répondre d'abord par une phrase, un mot, ensuite une phrase. Il va d'abord répondre en demi-groupe, après il va pouvoir répondre devant toute la classe. Après, là aussi, on va hiérarchiser les difficultés. Mais je pense qu'il faut travailler surtout à l'oral. Parce que l'écrit est généralement très bon, il n'y a pas de travail à faire.
Nicolas Armand Fouché, oui, vous vouliez réagir.
C'est pour insister une nouvelle fois sur le fait que la difficulté qui sera celle d'un enfant bègue sera sûrement totalement différente de la difficulté qu'un autre enfant bègue aura. Donc il y a des situations de communication dans lesquelles certains enfants bègues seront très mal à l'aise et d'autres très à l'aise. Donc c'est pour ça, encore une fois, qu'il est très important d'individualiser et de dialoguer en fait avec lui pour savoir quel est le type d'aide qu'on va pouvoir mettre en place dans la classe. Parce que, encore une fois, il y a des choses qui vont, au contraire, mettre un élève bègue en valeur et lui permettre de prendre confiance.
Alors, je vous entends parler d'individualisation de l'approche, mais j'en conclue aussi que le travail d'équipe est également important pour accompagner les élèves. Madame Neuhart, est-ce que vous voulez parler de cette dimension d'accompagnement, de travail d'équipe ?
Alors, c'est en principe orchestré par le professeur principal de la classe qui ne voit pas nécessairement l'enfant davantage, mais qui a justement ce rôle en fait de fluidificateur, si vous voulez. En tout cas, il est censé apporter un maximum d'informations à ses collègues, de favoriser les échanges, parce qu'un enfant bègue peut très bien en fait être dans une situation délicate dans une discipline et être beaucoup plus à l'aise dans une autre et sans qu'en fait les enseignants aient une explication entre guillemets qui puisse être cohérente. Donc le partage d'informations, tant sur les signaux d'alarme, le partage d'informations sur les éléments qui fonctionnent. L'enfant, c'est vrai, c'est notre partenaire premier et en général c'est le professeur principal ou un enseignant en qui l'enfant a particulièrement confiance qui peut justement tenir ce rôle privilégié et de voir avec l'enfant ce qui l'aide, ce qui ne l'aide pas, et mettre ensuite en place effectivement une sorte de contrat de stimulation positive de manière à ce que l'enfant puisse avancer. Le travail d'équipe, je l'entends au sens large, concernerait aussi à ce moment-là l'heure de vie de classe et un travail en fait avec les pairs, c'est-à-dire les autres enfants.
Alors, vous avez mentionné l'enfant comme premier partenaire. J'ai envie de vous demander, Nicolas Armand Fouché, est-ce que le travail d'équipe a la même importance au premier degré qu'au second degré ?
Oui, ça j'en suis convaincu. Après, le travail d'équipe, c'est pas forcément... Le travail d'équipe, c'est se parler. Et mon expérience montre bien que quand on est dans une équipe, on échange, plus on échange sur les élèves, quoi qu'il se passe, plus on a d'outils pour pouvoir faire ce qu'il faut, hein, ça c'est sûr. Donc oui, il faut beaucoup échanger, c'est essentiel.
Nadia Brejean, voulez-vous compléter un petit peu aussi ? J'imagine que dans la notion d'équipe, on peut aussi l'élargir.
On peut l'élargir, c'est également ce que j'allais dire. C'est très intéressant d'échanger entre les enseignants, mais je crois que échanger avec l'orthophoniste et les parents, mais c'est intéressant aussi. L'orthophoniste donne régulièrement des brochures qu'on peut retrouver sur le site de l'association Parole Bégaiement. D'ailleurs, on peut les télécharger pour l'école maternelle, primaire, pour les adolescents ensuite, qui vont donner un grand nombre de conseils aux enseignants, comment ils peuvent réagir avec des définitions du bégaiement pour qu'ils sachent mieux ce que c'est et puis comment ils peuvent réagir. Et le fait de donner cette brochure, moi je la donne systématiquement aux parents, même des adolescents, pour qu'ils transmettent au professeur principal, c'est déjà discuter du problème, de transmettre cette brochure. Et une fois que le sujet est clair et le mot bégaiement a été prononcé et que l'élève sait qu'il ne va pas être pénalisé, parce que c'est ça le problème. L'élève pense souvent qu'il va être pénalisé à cause de ça, à l'oral. Donc il faut qu'il sache qu'on ne va pas le pénaliser pour son bégaiement. Voilà, c'est très important.
Alors, si je dois synthétiser nos échanges, je dirais que pour accompagner des élèves atteints de bégaiement, il est important que les enseignants soient sensibilisés à ces troubles et aux gestes professionnels à mettre en place pour faire comprendre à l'enfant ou aux jeunes que ces troubles l'affectent, que ce sont des choses qu'ils peuvent faire à un moment de leur vie, mais que ce n'est pas non plus ce qui définit l'enfant, l'élève, hein, bien sûr. Pour conclure, une dernière question. Qu'aimeriez-vous dire à nos auditeurs sur ces troubles? Et je vais faire le tour de la table. Je vais commencer par vous, Corinne Neuhardt.
Eh bien, pour ma part, je souhaite que ce podcast favorise une prise de conscience par rapport au bégaiement, qu'il y ait un avant et un après, que les enseignants gardent les besoins de ces élèves en arrière-plan une fois qu'ils auront été sensibilisés, comme autant de points de vigilance.
Alors moi, j'aurais envie de dire, attention, le bégaiement ne passe pas tout seul. Il ne passe pas tout seul, il passe avec beaucoup d'aide. Ça arrive qu'il passe tout seul quand les enfants sont très petits, mais souvent, il ne passe pas tout seul. Et une fois qu'il est installé, ses élèves, ses enfants ont besoin d'être accompagnés. C'est très important. On peut devenir président des États-Unis, hein, Joe Biden a un bégaiement, avec un bégaiement. Ce n'est pas le bégaiement qui va empêcher de faire ce qu'on veut faire dans la vie. Par contre, si on a peur de prendre la parole, si on a honte de sa façon de parler, si on se replie sur soi, qu'on développe de l'anxiété sociale, là, on a beaucoup davantage de problèmes dans la vie. Donc, c'est le rôle des enseignants, des parents, des orthophonistes, de nous tous, de faire en sorte que les élèves se sentent le mieux possible en classe pour qu'ils ne développent pas cette anxiété de communication.
Nicolas Armand-Fouché, vous avez le mot de la fin.
Alors, j'aurais envie de dire plein de choses. J'aimerais peut-être dire qu'en fait, le bégaiement, même si c'est une immense difficulté, peut être aussi une aventure de vie. C'est des difficultés, on en a tous. Je suis pour ma part... je bégaye pour ma part depuis que je suis les enfants. Donc j'ai bégayé en tant qu'écolier, en tant qu'étudiant, en tant qu'homme et en tant que prof. Et comme toute difficulté, on peut aussi en faire un parcours de vie, quelque chose de très riche, une grande force. Donc peut-être que je peux terminer sur ce message d'espoir-là. J'aimerais qu'on puisse mettre en place des choses, effectivement, dans les familles, à l'école, dans l'éducation nationale, pour qu'effectivement, les personnes qui vivent ce genre de choses puissent... se développer en tant qu'être humain et que ce ne soit pas un frein. Voilà.
Eh bien, c'est sur ce témoignage que nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie nos trois intervenants et j'invite les auditeurs à consulter toutes les ressources de l'espace dédié Cap École Inclusive sur le site de réseaucanopée.fr. Le bégaiement et le bredouillement, une production Réseau Canopée 2021.